À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question de Saint Isaïe. Ça peut vous surprendre que je l'appelle saint, mais savez-vous que... je mentionne que dans ma bibliothèque, j'ai des livres, j'en ai un. Toute une série de volumes, là, de 1739, et puis c'est la vie des saints composée sur ce qui nous est resté de plus authentique, etc. Les titres sont très longs à l'époque. Et dans le tome premier... Il est écrit contenant les vies et la chronologie des saints de l'Ancien Testament, puis il est question de Saint Isaïe au mois de juillet. C'est pendant mes vacances, je l'ai déplacé pour le mettre aujourd'hui, au 20 avril. Mais de toute façon, vous savez, dans les grandes vies des saints parues vers 1950... À Paris, chez les bénédictins de Paris, un monastère de bénédictins de la même congrégation de Solem que ceux de Saint-Venant-du-Lac, qui sont dans le 16e arrondissement, je vous le signale, si vous allez à Paris, allez les voir, vous aurez un monastère en pleine ville. Et puis, les bénédictins de Paris ont publié 13 bons volumes de vie de saint, donc il y a une cinquantaine d'années, puis il est question de Saint Isaïe au 6 juillet, prophète, Ancien Testament. Et on écrit ceci, et c'est très intéressant, au début, ils disent « Quelle vitalité, quel prodigieux instinct de conservation il a fallu au monothéisme hébreu pour résister à la concurrence des cultes païens environnants. » Pas facile de résister au paganisme. On le voit bien pour notre petit peuple. On a beau ne pas vraiment parler la langue des gens qui nous entourent et qui sont devenus passablement païens, particulièrement aux États-Unis, par tous les moyens de communication aberrants qu'ils semblent favoriser, eh bien, ça nous atteint. Et les bénédictins ajoutent, il semblerait que la morale austère du peuple hébreu aurait dû céder aux attitudes sanguinaires et sensuelles de ces gens qui adoraient de nombreux dieux, qui les entouraient, tout cela qui flattait les passions, puis la volonté de puissance. Et pourtant, l'idéal cher à l'élite des Hébreux n'est pas tombé, n'est pas entré en connivence hypocrite et en rapport retentissant avec ces gens. L'idéal des Hébreux a eu pour grands défenseurs les prophètes, qui sont de nobles témoins, et des interprètes de Dieu, c'est ça des prophètes. Hein? C'est ceux qui, au nom de Dieu, inspirés par Dieu, avertissent les gens que le bonheur ne se trouve pas dans les sentiers aberrants dans lesquels ils se sont aventurés. Et le plus grand, disent les bénédictins, le plus grand parmi eux, au moins par l'éclat de son style, a été Isaïe, au 8e siècle, avant le Messie Sauveur. C'est vraiment un homme extraordinaire que cet Isaïe. On ne le sait peut-être pas assez. Jean-Pierre Prévost, ce Montfortin qui publie « Pour lire les prophètes », a publié ça il y a quelques années à peine, aux éditions Novalis et aux éditions du Cerf. C'est un livre intéressant pour lire les prophètes. Peut-être un peu trop didactique, peut-être un peu trop universitaire, mais ça n'empêche pas que c'est bien fait. Jean-Pierre Prévost, il écrit au début de son passage sur Isaïe, à la page 77, « Nous allons maintenant entreprendre l'étude, dit-il, de celui qu'on a appelé le prince des prophètes, et que d'aucuns considèrent comme le poète par excellence de la Bible hébraïque. » C'est pas n'importe quoi, le poète par excellence. C'est la semaine du livre, à Montréal, en tout cas, un peu partout dans le monde, je pense. Nous allons célébrer ça toute la semaine, particulièrement vendredi. Il y a une ouverture d'exposition de livres religieux, justement, chez les Montfortins. Hier, je vous ai parlé d'un historien, Sulpice Sévère, ça n'a valu aucun téléphone, personne n'a apprécié, mais ça n'empêche pas que cet auteur du best-seller de vie de saint, Saint-Martin, je vous l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, c'est extraordinaire quand on y pense. Vous savez, il a publié ça, quand on dit qu'il a publié en vers l'an 400, un peu avant, la vie de Saint-Martin, c'est qu'il l'a écrite. Ça a été recopié, comme je l'ai dit, par tout le monde, dans les monastères, un peu partout, à travers toute l'Europe, traduit dans des langues. Incroyable ce que ça a été, mais c'était surtout en latin, tout le monde lisait le latin, mais ça a été traduit par après. Eh bien, c'est la même chose avec Ésaïe. Son livre est un des livres les plus puissants, les plus remarquables dans la Bible, un des plus remarquables de l'histoire de l'humanité, à mon avis. Son livre est colossal, dit Jean-Pierre Prévost. 66 chapitres dont la composition aurait été étalée sur près d'un demi-millénaire. Donc, il y a plusieurs Ésaïe, il y en a au moins deux. C'est dire que nous avons affaire à un défi de taille, dit-il. Présenter en un seul petit chapitre une œuvre aussi imposante et aussi riche, tant du point de vue littéraire que théologique. Et ici, plus que jamais, dit-il, il faudra faire un des choix, résumer et suggérer. C'est ce que je vais être obligé de faire, moi aussi, car je n'ai que quelques minutes. C'est un personnage tellement extraordinaire que l'on appelle de plus en plus Ésaïe au lieu de Isaïe. Il l'explique, mais si vous voulez le savoir, vous irez voir. Ça n'a aucune importance, à mon avis. C'est tout à fait secondaire. Et cela ne m'intéresse à peu près pas, moi, personnellement. On trouve quelques renseignements sur la vie ou la personne d'Isaïe dans son livre même, dans le 4e livre des Rois aussi, dans la Bible, dans le 2e livre des Paralipomènes, puis dans l'Ecclésiastique, c'est des livres de la Bible, tout ça. Il était fils d'Amos, pas le prophète, là. Un Amos qu'il faut pas confondre avec le petit prophète de ce nom. Et il n'a pas été de race royale. Il y a une tradition rabbinique chez les Juifs qui prétend qu'il était de race royale à Jérusalem. Il vient probablement de Jérusalem, semble-t-il. Il appartenait, entre les cas, à une très grande famille du royaume de Juda. Il y avait le royaume de Juda. Et il a exercé son ministère qu'à Jérusalem, au centre de la vie religieuse et politique de son peuple. Il va s'engager sur le plan social et politique comme prophète. Le titre de son ouvrage nous indique d'ailleurs qu'il a prophétisé au jour d'Ozias, de Joatan, d'Akaz, d'Ézéchias, tous des rois de Juda. Il a donc eu une prédication longue et il avait beau attaquer les puissants, ils ne l'ont pas tué. Mais d'après une tradition juive ancienne, accepté par beaucoup d'écrivains chrétiens, il aurait péri quand même sur l'ordre de Manassé par le supplice de la scie. C'est un supplice épouvantable, il a été scié, dit-on. Au témoignage de Saint Jérôme, quelques siècles plus tard, beaucoup d'auteurs chrétiens voulaient déjà retrouver dans cette tradition, ou cette tradition-là, dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 11, elle est passée donc dans le martyrologe romain, on en a fait un martyr et un saint, et il est fêté le 6 juillet. Ça n'a rien d'invraisemblable. L'historien Joseph, lui, dit explicitement que Manassé a tué des prophètes, donc il a probablement scié aussi le prophète Isaïe. Le livre des Rois atteste qu'il a répandu beaucoup de sang innocent, ce Manassé. Donc, le prophète Isaïe, qui avait inauguré son ministère l'année de la mort du roi Ozias, le remplissait encore au temps de la grande invasion du roi syrien Sennachérib en Judée. Ainsi, pendant au moins 40 ans, donc de 740 à 701 avant Jésus-Christ, ce grand prophète Isaïe a occupé le poste glorieux mais difficile que lui a assigné Yahvé. Vous allez voir comment il le lui assigne, c'est de toute beauté. Il est toujours au premier plan, il avertit, il encourage, il menace, il rassure tour à tour. Il s'intéresse de très près à toutes les fluctuations de la situation intérieure et extérieure du royaume de Juda. Et puis son rôle, qui est à la fois politique et religieux, a été considérable. Son influence, tantôt évidemment repoussée, tantôt joyeusement acceptée, a été un des grands moments de l'histoire de la religion. Ces préoccupations sociales peuvent nous intéresser. Nous sommes tellement préoccupés par ces questions-là depuis de nombreuses années, grâce à des papes comme Léon XIII jusqu'au pape actuel. Eh bien, la prédication d'Isaïe touche toutes sortes de rapports sociaux, hein. Le domaine des rapports sociaux ne lui est pas étranger du tout. Il est comme le prophète Amos, comme le prophète Osée, comme le prophète Michée. Il dénonce l'extension abusive des grandes propriétés. Comme nos évêques, les protestent en Amérique du Sud. Vous avez vu Monseigneur Helder Camara, qui a protesté souvent, lui qui habite le nord du Brésil, a protesté souvent contre ces possessions immenses de terrains qui empêchent les pauvres petits d'avoir un petit terrain pour cultiver et nourrir leur famille. Mais c'est la même chose. Donc, il dénonce l'extension abusive des grandes propriétés, ceci est au chapitre 5. Il dénonce l'argent, le luxe, puis la paresse, l'oisiveté de la noblesse qui vit du sang des pauvres. Ça, il le fait au chapitre 3. Et puis au chapitre 5 aussi. Il parle même de la corruption des juges. On en a vu des choses avec le juge Flaïf ces jours-ci, semble-t-il. Et la corruption des juges, c'est pas toujours facile devant les trafiquants de drogue extrêmement puissants. Que faire quand on est juge et qu'on est menacé? Femmes, enfants, etc., ça doit arriver, j'imagine. Puis il y a les injustices commises au détriment des plus faibles, si ça, ils s'attaquent à ça. Sur le plan social, on peut pas dire qu'Isaïe soit un révolutionnaire, mais plutôt un réformateur. Un réformateur qui s'est vu solidaire, solidaire du petit peuple. Le petit peuple qui est exploité, là. Il est près de ce petit peuple. Et si tout ça se déroule, je vous le rappelle, il y a plus de 2500 ans. Isaïe ne remet pas en question la structure de la société du royaume de Juda, là, Jérusalem et tout ça. Mais il invite les classes dirigeantes à exercer la justice. En somme, quand on s'occupe des pauvres, je crois qu'il faut s'occuper des riches pour convertir le cœur des riches. Et c'est ce qu'il faisait. Parce qu'il disait, lui, que par leur rapacité puis leur volonté de puissance sans limite, les grands sont responsables du malheur national. Et à aucun moment, cependant, ce grand prophète Isaïe ne laisse entendre que les petites gens pourraient jouer un rôle actif ou échapper à la catastrophe commune qui se prépare. Il croit que c'est la responsabilité des puissants et qu'il faut vraiment les transformer, changer leur cœur, faire que finalement, ils soient atteints et saisis. Dans un tout petit livre de Jean Steinman, il dit au début, un jeune aristocrate heureux, dans un pays en pleine prospérité, voilà Isaïe. Un jour, une éclatante vision lui dévoile la grandeur divine, puis l'instabilité essentielle de toute sécurité humaine. Et désormais, ce mystique, ce jeune mystique, va mettre tous ses talents de poète, d'orateur et d'homme d'action au service d'un redoutable message religieux qui est au fond le message concret, social de l'Évangile. Jésus n'a pas craint de parler dans le même ton. Et dans son pays, dit l'abbé Steinman, qui est mort de façon tragique, je vous le rappelle, un jour je parlerai de lui. Quel homme admirable que l'abbé Jean Steinman, grand spécialiste de la Bible autrefois. Mais dans son pays, d'Isaïe, les catastrophes se succèdent, puis il assiste à des guerres incessantes, à de cruelles invasions étrangères. Et il y a les champs d'oliviers, de figuiers, les vignes qui sont ravagées puis incendiées, les villes pillées, les habitants déportés ou massacrés. Mais grâce à ce prophète poète, la patrie est sauve. Comment ça? Parce que l'avenir est assuré. Et le message que ce grand guide Isaïe va proférer pour ses contemporains, ben, il y atteint à la grandeur d'une parole éternelle. C'est Isaïe, ça se lit aujourd'hui toujours en tremblant, tellement c'est beau. Il annonce les traits définitifs du royaume de Dieu, issu de ce royaume de la terre. C'est un grand destin que celui d'Isaïe, dont je vais vous parler. Je vous ai glissé un mot de l'abbé Jean Steinman, qui est mort tragiquement, c'est-à-dire qu'il est mort dans un accident de voiture en visitant Petra, dans la région de la Terre Sainte. Il écrit toujours au sujet d'Isaïe quelque chose de merveilleux. Il dit que Isaïe est l'un des plus grands, sinon le plus grand poète de sa race. En cette semaine, donc, où on s'intéresse beaucoup à la littérature et aux livres, ce serait bien de se mettre ça en tête. C'est pas nécessaire d'aller du côté nécessairement de Michel Tremblay. Il écrit dans un hébreu classique, dit l'abbé Steinman. La composition de ses oracles est pleine et équilibrée. Le vocabulaire riche et noble. Le rythme de ses vers est harmonieux et large. La pensée est toujours franche, nette, débarrassée de toutes les imprécisions qui rendent parfois si lourds les oracles d'autres prophètes. Ces images sont sobres et puissantes et sa prosodie bien frappée. Par exemple, ce quatrain du début de sa prédication. Alors, je vous les lis. C'est très beau. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car Yahvé parle. Voici les paroles de Yahvé. J'ai élevé et fait grandir des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Pensons à notre peuple ici, du Québec, là. J'ai élevé et fait grandir des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf reconnaît son bouvier, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. C'est au tout début de son livre. Voilà un art qui a exercé une influence immense, hein, sur tout le reste de la Bible. Isaïe ne se serait pas senti dépaysé, hein, s'il avait vécu à notre époque. Il me semble qu'il, comme il dénonçait en son temps la corruption du pouvoir, le laxisme des mœurs, et puis l'alcoolisme, et puis la cupidité, il le ferait encore aujourd'hui. Les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas tout simplement des gens qui prédisent l'avenir, c'est pas ça, des devins, quoi, comme on entend, là, à la radio, tard le soir, les Jojo, Savard est revenu en ondes. C'est inconcevable. Les gens dépensent leur argent de ce côté-là. Au lieu de lire Isaïe, ce sont des messagers de Dieu, les prophètes. Durant trois règnes de roi, comme je vous ai dit tout à l'heure, Isaïe va tenir le triple rôle de conseiller politique, de pourfendeur de l'immoralité, puis de défenseur de la foi. Et pendant plus de 40 ans, comme je vous ai dit, il répète qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le salut de l'homme passe par la foi en lui. Il le dit bien. Cieux, écoutez, toi, terre, prête l'oreille, car Yahvé parle. Je ne lis lui. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés, et eux se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son bouvier. L'âne, la crèche de son maître, mais Israël n'a point de connaissance. Mon peuple n'a point d'intelligence. En nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, fils criminels. Ils ont abandonné Yahvé. Ils ont outragé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Et toute la tête est malade, et tout le cœur est languissant. De la plante des pieds au sommet de la tête, il n'y a en lui rien de saint. Ce n'est que blessure, meurtrissure, plaie vive, qui n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. Ah, que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous étendez vos mains, je voile mes yeux devant vous. Quand on pense que les musulmans tuent comme ça des centaines de milliers d'animaux en Arabie Saoudite, quand ils vont à la Mecque, comme si Allah appréciait ses... Il est dit déjà depuis plus de 2500 ans. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse et des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Et il ajoute quelque chose qu'on doit bien se mettre en tête. C'est Dieu qui parle. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. En d'autres termes, confessez-vous. Allez voir un prêtre. Racontez-lui et livrez tout l'intérieur de votre âme qui est rempli de toutes sortes de petites vipères et de petites choses plus ou moins propres. Dites-les lui. Et au nom du Christ, il vous libérera. Lavez-vous, purifiez-vous, écrit Isaïe. Au nom de Dieu, ôtez la malice de vos actions de devant mes yeux. Cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Recherchez la justice. Redressez l'oppresseur. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et discutons ensemble. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous obéissez de bon cœur, vous mangerez les biens de votre pays, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez mangé par l'épée, car la bouche de Yahvé a parlé. » C'est saisissant. C'est très beau. Moi, je trouve ça admirable. Peu de passages de la Bible sont aussi émouvants que celui où le prophète Isaïe raconte la naissance de sa vocation. Il est debout dans le temple de Jérusalem lorsque tout à coup le Seigneur lui apparaît, assis sur un trône élevé, entouré de séraphins à 6 ailes. Tandis que l'édifice tremble et se remplit de fumée, Isaïe bégaye « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » L'un des séraphins saisit un charbon ardent sur l'autel et le pose sur les lèvres d'Isaïe pour le purifier de ses péchés. Entendant le Seigneur demander « Qui enverrai-je ? » Eh bien, Isaïe répond « Me voici, envoyez-moi » et sa mission lui est alors révélée. Quelle est notre mission à nous tous au fond ? C'est de châtier, de sauver nos concitoyens qui rendent publiquement un culte à Yahvé, mais qui adorent en secret les idoles païennes. Pas facile. C'est au chapitre 6 que se trouve le récit de la vocation d'Isaïe, qui raconte la vision inaugurale du prophète, et qui devrait, il me semble, figurer en tête du livre, mais de toute façon elle est bien là où elle est quand même. On y remarque la haute notion de la sainteté et de l'absolue perfection de Dieu, qui s'y déploie dans cette vocation, spécialement dans la première partie, et que l'on retrouve dans tout le livre. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. C'est l'année de la mort du roi Ozias. Il reçoit une mission, une vocation. Il est jeune. Il est tout jeune. C'était l'année où mourut, dit le livre d'Isaïe au chapitre 6, c'était l'année où mourut le roi Ozias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Vous connaissez ce texte qui est utilisé tous les jours à la messe, juste avant la consécration des saintes espèces au corps et au sang du Christ sur tous les autels de la terre. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. » La terre entière est remplie de sa gloire. Je fais une petite parenthèse. Vous savez que plus ça va, plus les scientifiques s'intéressent aux questions écologiques. Se rendent compte que la terre est une telle organisation sur le plan écologique, une telle splendeur dans les rapports entre tous les êtres vivants de la terre, les eaux, le sol, les arbres, les saisons, les vents, le soleil, les astres, que c'est le signe le plus éclatant qu'il voit, à part la splendeur de ce que nous sommes dans notre cerveau, nos yeux, etc., notre cœur qui bat et tout, et notre capacité de nous reproduire, c'est un cri de la splendeur et de la gloire de Dieu. Je continue la lecture. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, les voix des anges. Et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont impures pour me joindre à cette louange des anges. Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi impures. Oh, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée. Ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Et le Seigneur reprit, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Alors rends-les donc insensibles, durs d'oreilles et aveugles, empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre et leur intelligence de comprendre, pour qu'ils ne risquent pas de revenir à moi et d'être guéris. Je demandai alors, jusqu'à quand, Seigneur? Il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et dépeuplées, les maisons vidées de leurs occupants et la campagne réduite en désert. Tout ça, c'est une façon de parler. Dieu ne veut pas qu'il rende vraiment insensible à la parole vivante de Dieu les oreilles de ses concitoyens. C'est une façon de parler, de dire que si ils sont vraiment sûrs, leurs villes seront dévastées. C'est-à-dire qu'ils auront simplement un monde abracadabrant, sans dessus-dessous. Et on ajoute, oui, le Seigneur éloignera la population du pays, beaucoup de terres y resteront en friche, si le dixième de ce pays échappe encore au désastre. À son tour, il aura le sort des rejetons qui poussent la souche d'un chêne ou d'un térébinthe abattu. On les livre au troupeau. Mais cette souche est le gage saint d'un nouveau commencement. Alors, il y a toujours un nouveau commencement après les horreurs dans lesquelles nous nous plongeons. Et nous pouvons en sortir à un moment donné. Donc, cette scène s'est déroulée vers l'an 740 avant Jésus-Christ. Et Isaïe, qui est fils d'Amos, est âgé d'environ une vingtaine d'années. D'autres disent peut-être 25 ans. Déjà marié, il a au moins deux fils, s'il est un peu plus vieux. Il entre au palais royal comme s'il était chez lui, ce qui laisse penser qu'il appartient à la maison de David. Mais c'est pas sûr, c'était qu'il connaissait très bien le bras droit du roi. Il y a des discussions là-dessus. On se le représente volontiers comme un homme de grande taille. Il devait déborder d'une énergie farouche. Isaïe devait avoir un regard étincelant. Il sait haranguer ses compatriotes d'une voix forte, qui résonne dans l'air pur de sa Jérusalem qu'il aime. Il a de l'audace, il pourrait être tué. Il continue. Sa puissante silhouette se découpe dans ce ciel assombri par toutes les menaces des pays étrangers. À cette époque, c'est le royaume d'Assyrie, un territoire enclavé qui correspond à peu près à celui de l'Irak moderne, qui cherche à s'ouvrir un corridor vers l'ouest afin d'avoir accès aux eaux tièdes et aux riches villes portuaires de la Méditerranée. Ils sont sous le commandement de quelqu'un qui est impitoyable, Tiglath-Phalazar III. Ils ont des guerriers à la barbe bouclée. On voit ça dans les sculptures. Des belles barbes bouclées. Mais ça répand la terreur. Rien ne résistait d'ailleurs à leurs chars, légers, tirés par des chevaux rapides et montés par trois soldats. On voit ça souvent dans les livres, hein? Les sculptures, dans les bas-reliefs. Face à de tels ennemis, qu'est-ce que le royaume de Juda pouvait espérer? Qu'est-ce qu'Isaïe pouvait espérer? Le petit royaume né en même temps qu'Israël, de la partition de l'empire de Salomon, du roi Salomon, 200 ans auparavant. Achaz, le roi sans courage qui, de son palais de Jérusalem, régnait alors sur cette zone aride et montagneuse à l'ouest de la mer Morte, lui n'avait qu'un souci en tête, c'était de faire la paix avec la Syrie. Il en avait peur des Assyriens, puis il avait bien raison dans un sens, hein. Il avait refusé de s'allier à la Syrie et à Israël pour lutter contre les prétentions de Tiglath-Phalazar. Il a commis l'imprudence de faire appel à ce dernier pour se défendre des voisins qu'il venait d'offenser. Une souris qui demandait la protection au chat. C'est pas la bonne chose à faire. Et Tiglath-Phalazar a envoyé ses chars dévaster Israël et la Syrie, puis il a invité son allié, son prétendu allié, Juda, à lui rendre visite dans la capitale syrienne qu'il venait de conquérir. Alors le roi Achaz, qui avait déjà livré le trésor du temple de Jérusalem, a couru à Damas en Syrie pour le voir, On lui a montré le grand autel de bronze que les vainqueurs avaient érigé en l'honneur de leur dieu à eux, puis ils avaient plusieurs dieux. Et très obéissant, le roi de Juda a fait dresser une réplique dans le temple de Jérusalem, imaginez. Puis il est venu s'y prosterner. Un blasphème épouvantable, Yahvé se trouvait donc relégué au deuxième rang dans sa propre demeure du temple de Jérusalem sur le mont Sion. Isaïe gémit. Dans son texte, on trouve ça dans la Bible. Comment la cité fidèle a-t-elle pu se prostituer ainsi? Comment Montréal a-t-il pu se prostituer ainsi? Comment la cité fidèle a-t-elle pu se prostituer ainsi? La justice y habitait, et maintenant des assassins y font la loi. Ceux qui abandonnent Yahvé périront, dit Isaïe. C'est sûr que ceux qui abandonnent Dieu périssent. C'est pas que Dieu les fait périr. C'est qu'ils périssent dans le désespoir, dans le matérialisme, dans l'ennui, dans le divorce, dans toutes sortes de choses. Et Isaïe continue, « Je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vie, de ma vigne. Je vais en arracher la haie pour qu'on la broute, en abattre le mur pour qu'on la piétine et qu'elle soit saccagée. » En somme, le prophète Isaïe avertit les princes cruels et les fonctionnaires hautains de Jérusalem qui oppriment les démunis. Vous qui vous appropriez les biens du pauvre, de quel droit écrasez-vous mon peuple? C'est ce qu'a dit Monseigneur Elder Camara qui a failli être assassiné je ne sais combien de fois. Monseigneur Romero qui a été assassiné à l'hôtel. Le cardinal Arns. Des hommes que j'ai interviewés et que nous avions interviewés, Marcel Brisebois et moi, à rencontre, plus des hommes qu'on vous a présentés, plusieurs autres, je pourrais vous les citer. Tous ces hommes d'Amérique du Sud qui se dressent, comme Isaïe. Mais ses reproches sont très mal accueillis, ce pauvre Isaïe. Les foules se moquent de lui. Le roi lui-même, dit la légende, va jusqu'à se déguiser pour échapper à ses remontrances. Ben, c'est étrange. Découragé, Isaïe se retire de la vie publique et peut-être possède-t-il un domaine qui peut lui servir de refuge à lui et à sa famille. Son beau livre dans la Bible est rempli d'évocations de la vie des paysans. Tout cet aspect-là, c'est très intéressant aussi. Il y a la parabole de la vigne, par exemple, qui sonne trop juste pour être sortie de son imagination. Il connaît les vignes. Le prophète Isaïe y raconte le travail accompli par un ami pour faire fructifier sa vigne. Il a bêché et enlevé les pierres d'un coteau fertile. Il y a planté du muscat, c'est si bon, hein, du vin de muscat. Il a bâti une tour, a creusé un pressoir dans l'espoir d'obtenir une belle récolte, mais les ceps ont donné du raisin sauvage avec lequel il est inutile d'essayer de faire du vin. Alors, il est désabusé. Oui, le vigneron est désabusé. Il voue sa vigne à la destruction. Ailleurs, Isaïe évoque les chants des paysans à l'époque de la moisson et les cris des bergers pour éloigner un lion. Et il nous fait pénétrer à un moment dans des fermes abandonnées qui sont hantées par les chouettes et toutes sortes de créatures lugubres. Oui, Isaïe connaît l'éblouissante chaleur de l'été, qui s'en vient pour nous, hein, et la brume légère de l'automne, que nous apprécions tellement après l'été. Oui, il a dû s'abriter de la grêle aussi, qu'il nous arrive de connaître aussi ici. Et on retrouve Isaïe à Jérusalem pendant le règne d'Ézéchias, fils d'Akaz. Sous l'impulsion, donc, du prophète Isaïe, le roi a chassé les idoles du temple. Il a rétabli l'ancienne alliance avec Yahvé et revenu à une conduite qui a un peu plus de bon sens, un seul Dieu, auquel nous croyons, trine, mais un seul Dieu, Père, Fils et Esprit, qui ne forment qu'un seul Dieu, trois personnes. Le vieil homme, pauvre Isaïe, aime comme son fils le jeune monarque, le jeune roi, Ézéchias, qui est pieux. La tradition juive raconte et qui lui a donné sa fille en mariage, mais Ézéchias, incapable de supporter plus longtemps le joug assyrien, fomente un pacte avec le pharaon d'Égypte pour chasser les Assyriens. Isaïe est indigné par cette union présomptueuse et sacrilège avec le pharaon d'Égypte qui est un païen. Le Seigneur seul peut libérer son peuple, dit-il. Et en homme d'État plus qu'en prophète, il fait remarquer que l'allié de Juda, l'Égypte, est faible et peu fiable. Et il dit malheur à ses fils rebelles. Ils exécutent des plans qui ne sont pas les miens. Ils sont partis s'abriter à l'ombre de l'Égypte sur roseaux brisés. Alors il y a le siège de Jérusalem pour montrer à ses concitoyens ce que leur réserve cette conspiration impie, là. Mais Isaïe se promène nu, imaginez, un peu comme Saint François d'Assise, qui se serait promené nu, hein, au moment de sa conversion solide, lui, ce jeune, cet adolescent, qui pour un peu narguer, en somme, son père bourgeois, enlève ses beaux vêtements, fait des tissus les plus merveilleux que vend dans son père, et puis s'est promené nu. Mais lui se promène nu dans les rues de Jérusalem, comme les prisonniers de guerre qu'on avait coutume de réduire en esclavage. Étrange, hein, ce prophète Isaïe, audacieux, admirable dans un sens, dans sa folie. Douce folie des prophètes qui osent dire ce que Dieu veut que nous entendions. Alors Sennachérib, le nouveau roi assyrien, ne tarde pas à réagir et aux premières nouvelles de la révolte, il prend la tête d'une expédition, puis quoi? Il rase 46 forteresses des Juifs hein, le long de la côte de Palestine. Il anéantit toutes sortes de renforts envoyés par l'Égypte. Il les anéantit facilement. Jérusalem est assiégée. Et elle paraît condamnée à tomber. Alors, je vous ai dit que Jérusalem est assiégée, n'est-ce pas, par les Assyriens, mais le miracle va s'opérer et Jérusalem va être délivrée. Et puis, le culte à Yahvé s'accroît, évidemment, grâce à ces prières qui ont vaincu. Isaïe mentionne qu'il confiait parfois à ses disciples la teneur de ses prophéties, pour qu'il les inscrive sur parchemin, et le livre d'Isaïe, c'est le fruit de cette collaboration. C'est un chef-d'œuvre. C'est une symphonie en trois majestueux mouvements, qu'on pourrait intituler la chute, l'expiation, puis la rédemption du peuple juif. Espérons que nous aussi, qui sommes assiégés, nous serons libérés. Et dans le livre d'Isaïe, il y a des passages qui sont souvent cités dans le Nouveau Testament, et je vous en lis des passages, en particulier ceux qui concernent le serviteur de Yahvé. Je vous en ai parlé quelquefois, mais je vous les cite. Voici mon serviteur que je soutiens. Il est question du Christ. Dans des textes qui ont écrit 700 ans avant. Voici mon serviteur que je soutiens. Mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il répandra la justice parmi les nations. Il ne criera point. Il ne parlera pas haut. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche prête à mourir. Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, et je t'ai pris par la main, et je garde et je fais de toi l'alliance du peuple, la puissance des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, du cachot, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et au chapitre 52, on trouve ceci, jusqu'au chapitre 53. « Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il sera exalté, souverainement élevé. De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'était plus celui d'un homme. Vous savez, quand le Christ a été battu, frappé, on lui a craché au visage, on l'a couronné d'épines, la figure ensanglantée, le corps complètement... devenu ensanglanté par les coups de fouet. De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'était plus celui d'un homme, ni son visage celui des enfants des hommes. Ainsi, il fera tressaillir des nations nombreuses. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face, en but au mépris, nous n'en faisions aucun cas. Vraiment, c'était nos malades, nos maladies qu'il portait, et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous, nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On le maltraite et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie et à la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance, mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité et prolongera ses jours, et le dessein de Yahvé prospérera dans ses mains. Il y a tellement d'autres passages, Il y a le caractère précis, concret, individuel des traits. On dirait donc le prophète s'est servi pour dépeindre ce serviteur, Jésus de Nazareth, le Christ. Le singulier est toujours employé quand Isaïe parle de lui. Il est appelé un homme. On fait mention de sa voix, de sa parole, de sa langue, de sa bouche, de son oreille, de sa barbe, de son visage, de son dos, de sa main. C'est extraordinaire. Il naît, il grandit, il souffre, il meurt, il a son tombeau. C'est étrange. Le serviteur de Yahvé ne se confond pas, me semble, avec Israël, qu'il a pour mission de sauver ainsi que les nations. C'est un individu et c'est le Messie. Il n'est pas présenté comme le fils de David, parce que sans doute, on veut mettre en relief le côté douloureux de l'œuvre du Messie et le caractère libérateur, rédempteur de ses souffrances, qui sont faites dans l'amour le plus absolu. Au reste, le portrait du serviteur ne convient à aucun autre personnage que le Messie, personne d'autre. Le sens individuel étant prouvé, il n'est pas difficile d'établir que Isaïe n'a pas eu en vue d'autre personnage que le Messie futur. En d'autres termes, que le sens messianique est le sens littéral des passages relatifs aux serviteurs. C'est évident. Il me semble que c'est évident. Quand on lit ce livre d'Isaïe, il y aurait tellement de choses à dire qu'on ne sait plus par où commencer. Il est vraiment Isaïe par excellence le prophète du messianisme. Il annonce l'apparition d'un messie humain. Promesse que plus tard, l'auteur du livre de Daniel va compléter en voyant le Fils d'homme venir du ciel. Faut pas oublier que le mot Messie signifie en hébreu celui qui a reçu l'onction royale. Et en ce sens, chaque roi de Juda est déjà un Messie, un Christ, suivant la traduction grecque du mot, or fidèlement attaché à la dynastie de David et au temple de Jérusalem, qui était la chapelle royale là, du palais bâti par Salomon. Isaïe développe, lui, au nom d'Yahvé, les promesses faites à cette dynastie de rois, et puis d'après lui, le sauveur promis naît d'une femme, et son surnom d'Emmanuel affirme la présence de Dieu parmi les hommes. Il donne le gage d'une victoire du plan divin sur toutes les intrigues des nations, qui sont les ennemis du peuple élu. Et le Messie grandit, il grandit, oui, dans une atmosphère divine, et ses noms de conseiller merveilleux, c'est dans le livre d'Isaïe qu'on trouve ça, conseiller merveilleux, Dieu héroïque, Père éternel, Prince de la paix, ce sont des noms de couronnement qui énumèrent les vertus d'un grand, grand règne, qui est le règne de notre Seigneur, règne d'humilité, de douceur, de pardon, de miséricorde. C'est le roi de la miséricorde. C'est surtout la justice qui paraît à Isaïe la vertu maîtresse du nouveau royaume, une vraie justice, une justice qui s'exerce dans le pardon, la tendresse, la bonté, toujours, toujours. C'est à mon avis, l'un des plus beaux livres de l'histoire de l'humanité, je vous le répète. Et on n'en finira jamais de lire Isaïe, de le méditer et de profiter de ce que Dieu nous a donné, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, pour nourrir notre prière, notre raison, comme l'Église le fait en mettant ses textes dans notre sainte liturgie, qui est si belle quand elle est lue avec intérêt, quand elle est célébrée avec beauté.